Alors, bonjour à tous.
Bonjour.
OK, si vous voulez tourner dans Galates chapitre 5, verset 14. Galates 5, verset 14. Le verset nous dit, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors, Galates 5, 14, c'est un verset qui résume parfaitement l'histoire que Jésus a déjà racontée un jour concernant un Samaritain, qui nous a donné d'ailleurs la parabole du bon Samaritain. Si tu veux un titre, c'est lui. Maintenant, si notre interprétation de cette parabole-là tourne uniquement autour du fait qu'il faut être gentil vis-à-vis les autres, qu'il faut manifester de la bonté vis-à-vis les autres, c'est pas faux, mais on est peut-être passé à côté de ce que la parabole veut véritablement dire. La parabole du bon fameux Samaritain. Puis, souvent, c'est ça que les disciples y faisaient. Et que malheureusement, c'est ça que nous aussi, souvent, on fait. On croit saisir le contenu des histoires que Jésus a racontées, mais on en comprend une partie, une faible que ma partie souvent. Alors, souvent, lorsque le Seigneur Jésus-Christ parlait, les disciples et les auditeurs entendaient des choses, mais la plupart du temps, ils comprenaient pas grand-chose. Puis on est obligé d'admettre que souvent, on lit les Écritures, il faut les relire. Pourquoi vous pensez qu'on lit la parole de Dieu pendant 40, 50 ans, puis un vieux monsieur, un jour, qui avait dit, il dit, je commence à peine à enlever la poussière au-dessus. Parce qu'on a de la difficulté à vraiment saisir toute la pensée que le Seigneur avait lorsqu'il ouvrait que la bouche. C'est pas faux de dire qu'il faut manifester de la bonté à ceux qui nous entourent. Que d'ailleurs, là, ce qu'on a décidé de faire avec la bourse du Samaritain, on veut aider les Vénézuéliens qui vivent des périodes assez difficiles. Et hier, je lisais, Jean-Marc, là, c'est rendu que 60 000 disparus, à part des milliers de gens qui sont morts. Alors, c'est la moindre des choses que les chrétiens ayez un cœur pour vouloir aider les autres. Maintenant, est-ce qu'il faut comprendre que lorsque le Seigneur a donné la parabole du bon Samaritain, c'est ça que ça voulait dire. C'est sûr qu'il faut aider les gens, mais est-ce que le but de la parabole, c'était ça? Je pense qu'il faut comprendre que le véritable but de la parabole, c'était d'illustrer à quel point on est loin d'observer ce que la loi de Dieu exige. Ce que la loi de Dieu exige, on l'a lu tantôt, tu aimeras ton prochain, ça c'est une bonne affaire, là, mais comme toi-même. Là, ça vient de rajouter une couche pas mal plus difficile. S'aimer soi-même, on n'a pas trop de difficulté avec ça. Mais aimer notre prochain de la même façon, là, c'est un autre paire que de manches. Alors, on est tous d'accord pour dire que la loi, ça amène personne au salut. Dans Romains 3, 20, on lit « Personne ne sera justifié devant lui, c'est-à-dire devant Dieu, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Si on connaît le péché, c'est parce que Dieu a mis dans sa loi qu'une telle chose est péché. Alors, on ne peut pas être sauvé par la loi, même si on essaye de l'accomplir. La loi, ça demande toujours la perfection, tout le temps. C'est ça que c'est que la loi. Ça demande la perfection tout le temps. Dans Matthieu 5, 48, on lit qu'il faut être parfait comme notre Père céleste est parfait. Comprenez-vous là déjà à quel point c'est de la gymnastique, pas pire, là? C'est assez difficile que c'est pas faisable. Mais c'est ça que la loi demande. Puis c'est d'ailleurs ce que Jésus a indiqué au jeune homme riche qui croyait être correct en obéissant à la loi. Jésus lui avait déjà dit, il dit, si tu veux être parfait, on sait que c'est un jeune homme riche, il avait de l'argent. Le Seigneur, il dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis suis-moi. Et on connaît la conclusion de cette histoire-là. Le jeune homme, c'est un des rares qui quitte Jésus tout triste. Parce que il veut pas, puis il peut pas. Il est comme pas capable de se débarrasser de ses biens. Pour lui, c'est ça qui me chérit. Mais le Seigneur lui avait dit, si tu veux être parfait, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Jacques 2,10, on lit aussi, « Quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, est coupable de tous. » Tu en as manqué un, tu les as toutes manquées. Alors, comprenons-nous qu'est-ce que ça veut dire que la loi? Puis ceux qui pensent pouvoir gagner le ciel en accomplissant des œuvres, en faisant la loi, en obéissant à la loi de Dieu, mais ceux-là sont drôlement mal pris. Lévitique 18,5, on lit aussi, « Vous observerez mes lois et mes commandements. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. » Alors, si c'est ça ce que la loi veut dire quand elle promet la vie à ceux qui lui obéissent, ben on est obligé d'admettre qu'on est tous, toute la gang, disqualifiés. Parce que si on veut être honnête avec nous-mêmes, il n'y a personne qui réussit à faire ce que la loi demande. Aimer son prochain comme soi-même. Qui fait ça? Je m'en allais dire, ça a levé la main. Notre compréhension de la loi devrait plutôt nous inciter ou nous pousser à demander grâce et pardon parce qu'on a compris quelque chose de très clair. Je suis incapable d'accomplir la loi. Et pourtant, Dieu nous l'a donné. Dieu a donné la loi. Il nous a donné tout ce qui avait du sens, tout ce qui faisait, tout ce qui était bien. Il nous l'a donné. Maintenant, si on est capable d'accomplir ça, on peut avoir la vie éternelle, mais j'ai bien dit si. Alors, Jésus, pendant son ministère, a souvent été confronté à des gens qui pensaient le contraire, c'est-à-dire qui pensaient être capables d'obéir à la loi. Mais c'est à cause de ça, justement, qu'on a eu la parabole du bon samaritain. Jésus a raconté cette parabole-là à une catégorie de gens prétentieux, imbus d'eux-mêmes, qui se croyaient capables de diminuer la force de la loi de Dieu en argumentant, ici dans l'histoire qu'on va lire, en argumentant sur un mot, le mot « prochain ». Alors, si vous voulez tourner justement dans Luc chapitre 10, on va lire l'histoire de la parabole du bon samaritain. Luc 10, verset 30. C'est remarquable de voir qu'est-ce que le Seigneur dit et qu'est-ce qu'il faut qu'on en saisisse, véritablement. Alors, Luc 10, verset 25. « Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Verset 28, « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement, ou encore, il y a une note là, dans la seconde qui dit par hasard. Alors, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Parce qu'il faut se souvenir que le monsieur de la loi, il disait, c'est qui mon prochain? Alors Jésus, après lui avoir raconté cette histoire-là, il dit, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Alors, au verset 25, ça part bien. Le docteur de la loi, il pose une question à Jésus. Il dit à Jésus, pour l'éprouver. Alors, son but, c'était de mettre Jésus dans l'embarras et impressionner la foule de ses compétences puis de sa connaissance. Sa question, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais ce n'est pas une question honnête qui est demandée par quelqu'un qui cherche à apprendre et à comprendre. C'est plutôt une ruse pour piéger Jésus. Mais c'est quand même une bonne question. Et c'est une question qui avait souvent été posée au Seigneur. Lorsque Nicodème l'avait posée quand Jésus lui avait parlé de la nouvelle naissance, Nicodème, dans Jean 3, 9, il avait dit, comment est-ce que ça peut se faire, ça? Comment est-ce qu'on peut naître de nouveau? Puis le jeune homme riche, dans Matthieu 19, il avait aussi posé la même question, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Alors, on sait que la plupart des Juifs y avaient appris par leur rabbin qu'à cause de leur descendance, de leur circoncision, de leur cérémonie, de toute leur tradition, qu'il y avait automatiquement le droit d'entrer dans le royaume que de Dieu. Autrement dit, parce que tu es juif, ton accès au ciel est garanti. Sauf que parmi certains juifs, ben, il y en a qui étaient dans le doute et qui se sentaient coupables. Probablement parce qu'ils vivaient, parce qu'ils pensaient. C'est pas tout le monde qui aime qui se beau, ça, que de mentir. Il y en a qui sont parfaitement conscients que je fais pas ce que je voudrais faire. Je suis pas aussi gentil que je voudrais l'être. Alors, il y en a qui se questionnaient sur ça. Il y en a qui, leur conscience puis leur cœur les accusaient puis ils ne sentaient pas dignes de faire partie du royaume que de Dieu. Au verset 26, Jésus répond à la question du docteur de la loi par une autre question. Il lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Littéralement, ce que ça veut dire, comment lis-tu? Comment lis-tu les Écritures? Et à plus forte raison, comment les comprends-tu? Comment les interprètes-tu? Alors, au verset 27, le docteur de la loi, il donne une réponse qui, selon le Seigneur, est parfaite. Lui, il dit que le point le plus important, c'est d'aimer Dieu de tout son être et d'aimer son prochain comme soi-même. Alors, Jésus confirme au verset 28, « Tu as très bien répondu. Fais ça, puis tu vas vivre. » Autrement dit, tu veux la vie éternelle? Observe que la loi. Mais quand on y passe comme faux, là, c'est pas l'Évangile, ça. C'est loin d'être l'Évangile. Ce n'est pas l'Évangile, ça, c'est la loi. Puis comme on a vu tantôt dans Romains 3:20, la loi ne justifie personne. Alors, si tu penses être capable de gagner quoi que ce soit avec la loi, tu n'as pas compris. Alors, on a le droit de se questionner à savoir, mais pourquoi Jésus ne prêche pas l'Évangile à cet homme-là plutôt que d'y parler de la loi? Pourquoi qu'il ne prêche pas l'Évangile tout de suite? Parce que le Seigneur Jésus-Christ sait très bien à qui il a affaire. Il sait qu'il a affaire à un spécialiste de la loi qui, lui, pense pouvoir être capable d'accomplir la loi. Puis par-dessus le marché, l'Évangile, il ne veut rien savoir de l'Évangile. Ces hommes-là ne voulaient rien savoir de l'Évangile. Alors, c'est évident que le Seigneur, il va le ramener sur la loi. Tu penses être capable d'accomplir la loi? Mais ce que le Seigneur voulait vraiment que cet homme-là comprenne, c'est que la loi, elle va le condamner plutôt que d'approuver ce qu'il fait. Puis c'est ça le but de la loi, condamner. Alors, l'homme aurait dû se sentir écrasé, condamné par le message de la loi. Il aurait même dû se repentir et s'humilier, mais au lieu de ça, il cherche à se justifier. C'est ce qu'on lit au verset 29. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Alors, il passe habilement au-dessus du devoir d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Il cherche plutôt à discuter sur la définition ou l'identité du prochain. C'est qui, ça, mon prochain? Il pose ça à mes seigneurs, comme à mes questions. Alors, la parole de Dieu dit dans Lévitique 19:10, et c'est ce que la parole de Dieu dit, c'est ce que l'homme de loi devait connaître aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il l'avait dit, il avait compris ça, c'était clair, c'était bien, il avait bien répondu. Alors, l'explication de ce commandement-là, puis la mise en pratique par les scribes puis les pharisiens, était ce qu'on lit dans Matthieu 5:43. Je vais vous le lire, là. Matthieu 5:43, Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Il y a quelque chose de nouveau à la parole de Dieu qui avait été citée par Moïse dans Lévitique. Les pharisiens avaient rajouté « Et tu haïras ton ennemi. » Alors, on a ici un rajout à la loi qui prive le commandement de toute sa force. Tu rajoutes quelque chose. Extrêmement dangereux et à ne pas faire. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, lorsque Dieu dit ça, tu n'enlèves rien et tu rajoutes rien. Mais c'est ce que les pharisiens avaient fait. Alors, celui qui est libre d'haïr son ennemi est dégagé du devoir d'aimer tous ceux qui ont décidé de regarder comme ses ennemis. Donc, tu n'es plus obligé, tu n'as plus d'obligation légale ou morale d'aimer ceux que tu n'as pas envie d'aimer. C'est facile, ça? Lui, je n'ai pas envie de l'aimer, alors je vais le classer comme étant c'est un ennemi. Puis la parole, selon les pharisiens, tu peux haïr ton ennemi. Alors, conclusion, l'ennemi, ce n'est pas un prochain. Voyez-vous la gymnastique que les religieux font souvent? Ben, si c'est mon ennemi, je ne suis pas obligé de l'aimer. Alors que la parole de Dieu disait, quand Jésus y a dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi, celui qui parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ, moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Là, on est loin de la phrase « et tu peux haïr ton ennemi ». Est-ce qu'on les aime, nos ennemis, nous autres? Il faut réfléchir. La parole du Samaritain, elle a été donnée dans ce but-là. Nous faire réfléchir à savoir, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Oui, mais c'est qui mon prochain? Mais ça peut même être ton ennemi. Alors, le Seigneur va encore une fois user de grâce envers un incroyant pour l'amener à reconnaître son péché et son besoin de miséricorde. Et ça nous a donné la parabole du bon Samaritain, c'est-à-dire un conte, parce que c'est une histoire vraie que le Seigneur, c'est qu'il relate ici. C'est un conte pour faire saisir aux gens qui écoutaient une leçon qui doit se graver dans chacun de nos cœurs. C'était bon pour l'homme de la loi et c'est bon pour chacun d'entre nous ici. Alors, comme je vous disais, c'est pas une histoire c'est pas un conte qui a été que réel, sauf que la route que le Seigneur y parle, c'est-à-dire la route qui mène de Jérusalem à Jéricho, ça, c'est une route qui existe réellement. Puis elle existe encore aujourd'hui. Et puis, entre Jérusalem et Jéricho, c'est encore comme ça aujourd'hui, il y a une dénivellation d'environ 4000 pieds sur une distance de 30 kilomètres. Ça, c'est un chemin qui sépare les deux villes. La route est sinueuse par endroits. Il y a des précipices d'une centaine de mètres dans d'autres places. Puis, on voit des grottes qui sont favorables pour cacher des bandits puis des voleurs. Et, au verset 30, c'est exactement ce qu'on voit qui arrive. Jésus reprit la parole, il dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. » Verset 31, on a une lueur. Ça me fatigue, ça, moi. Cette affaire-là d'en face. Là. Verset 31, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passe à outre. Alors, lueur d'espoir, il y a un sacrificateur qui passe par là. Un sacrificateur, un serviteur de Dieu. Un homme qui connaît la loi de Moïse et qui connaît Lévitique 19, 18, qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il connaît tout ça, c'est un sacrificateur. Alors, il devrait venir au secours de celui qui a besoin d'aide, non? Mais verset 31 nous dit « Il passe à outre. » Le texte grec nous indique que le sacrificateur a délibérément changé de côté de la route. Il a changé de bord. Le blessé était sur un côté. Le sacrificateur le voit, il change de bord. Pour pas avoir affaire à lui. Alors, aucune compassion pour celui qui a besoin d'aide. Puis les devoirs du deuxième grand commandement, c'est-à-dire d'aimer son prochain comme soi-même, ça ne dépend pas, ça, de l'identité du prochain. C'est le contraire. Le véritable amour nous pousse à être le prochain des étrangers, même des ennemis. Puis c'est ça que je voudrais qu'on retienne ce matin. Même des ennemis. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les pharisiens enseignaient, mais tu as le droit de haïr ton ennemi. Seigneur avait tout défait ça en disant, mais tu vas prier pour ton ennemi, tu vas lui faire du bien. Ton ennemi, celui qui te veut du mal. Alors, le sacrificateur ici, il représente tous ceux qui ont une bonne connaissance de l'Écriture, qui devraient aider les autres, mais qu'ils ne font pas. Alors, on a vraiment une leçon à tirer ici, là, dans le sens de Qu'est-ce que je fais avec ce que je sais? Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on sait? Ça fait peut-être des années que vous entendez la parole de Dieu. Ça fait des années et des années qu'on sait des choses concernant Dieu, concernant ce que Dieu nous demande. Qu'est-ce qu'on fait avec tout le bagage qu'on a reçu? On l'applique. Maintenant, l'autre question, est-ce qu'on l'applique? Quand Dieu me parle et que j'ai compris ce qu'il me demande, est-ce que je me soumets ou est-ce que je résiste? Jean 4, 17 nous dit, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Ça, c'est beau, c'est facile à dire, ça. « Celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas, commet un péché. » On comprend que faire le mal, c'est péché. Tout le monde comprend ça, c'est facile. Les enfants de l'école du dimanche, ils l'ont compris, ça. Quand je fais le mal, c'est pas correct. C'est à mes péchés. Mais Jean nous dit aussi que le péché, c'est de ne pas faire le bien. Oh, palais! Là, ça vient de rajouter encore une autre couche. C'est pas juste péché qui est mal, mais de ne pas faire ce qui est bien, c'est péché. Voyez-vous dans quelle la loi où ce qu'elle nous amène? Elle nous amène dans un coin, là, puis elle nous fait réaliser. Regarde ce que tu es vraiment. Regarde ce que tu devrais faire et que tu ne fais pas. C'est un péché que mentir aussi. Tout le monde est parfaitement conscient de ça. Mentir, c'est péché. Mais ça peut aussi être un péché de connaître la vérité et de ne pas la dire. On rajoute une couche. Ouais, pas mal plus compliqué que je pensais, là. Verset 32. Le texte nous dévoile une autre personne qui arrive. Que Lévite. Quelle est la réaction du Lévite identique au sacrificateur? Pareil. Pas de compassion, pas de bienveillance. Pourtant, les deux font partie des religieux, respectables et cultivés, mais qui n'ont pas vraiment d'amour pour Dieu ni pour ses commandements. Ils ont probablement de l'amour pour eux-mêmes. Et c'est le danger qui guette tout être humain. On comprend très bien quand on lit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », parce qu'on n'a pas de misère à s'aimer soi-même. Mais aimer son prochain de la même façon, ça, c'est un autre paire de manches. C'est la raison pourquoi Jésus a amené cette parabole-là du bon samaritain. Puis vous allez voir un petit peu plus loin où ce qu'on va en venir aussi. Un autre sujet de réflexion, c'est peut-être correct de manifester une certaine animosité vis-à-vis l'attitude de ces deux hommes-là qui ont passé. Puis même, ça peut être correct d'être choqué de leur indifférence. Ah, c'est donc bien choquant de voir qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, puis ils ne l'aident pas, puis ils l'ont vu, ils ne font rien. Ça nous choque. Mais il faut faire attention parce que l'attitude de ces deux religieux-là, c'est exactement le reflet de la nature humaine aujourd'hui. Face aux besoins des autres, on peut être coupable de la même indifférence vis-à-vis ceux qui ont des véritables besoins. Genre, ben moi, je ne veux pas me mêler que de ça. Ou encore, je ne le connais pas, moi, cette personne-là, fait que regarde. Où il y en a qui vont dire ils sont mis eux-mêmes dans le trouble, mais qui s'arrangent. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ou encore, ceux qui l'ont frappé sont peut-être autour. Ben, moi, j'ai la chienne, je m'en mêle pas, je m'en vais. Je vous dis ça parce que j'ai vécu, il y a plusieurs années, la même situation. Je me souviens d'une nuit, c'est à Bécomo, je revenais de Québec, c'est en autobus. Puis quand on prenait l'autobus à Québec vers le souper, on arrivait à Bécomo vers les minuit et demi. On est fin des années 70. Je suis pas marié, j'ai pas d'auto, puis je retourne chez nous à pied. C'est que je demeurais sur la rue Henri. C'est que Rosaire, c'est où? Alors, en tournant un coin, on est en plein hiver, je vois un corps d'homme étendu à terre dans la neige. Premier réflexe, il est mort. Il bouge pas, il est mort dans la neige. Fait que c'est mon premier réflexe, là. Là, la crainte puis la peur de rencontrer probablement ceux qui l'ont battu à mort ou je ne sais pas trop. Là, ça commence à prendre ça met de la place, là. Alors, mon premier réflexe, c'est où ce qui sont ceux-là qui l'ont tapé de même, là. Mais qu'est-ce que je fais avec cette peur-là, là? Ben, je ne l'ai pas trop écouté. J'ai choisi de rester pour essayer d'aider le gars. Je m'approche de lui tranquillement. Là, je vois qu'il respire. Fait que là, j'étais que soulagé. Qu'est-ce qu'il y avait? Ne me le demandez pas. Je le sais pas. Puis, pas longtemps après, il y a des ambulanciers qui sont arrivés, qui l'ont pris, puis qui sont partis avec. J'ai jamais su ce que le gars a eu. Mais j'ai compris une chose, hein, c'est que lorsque je l'avais vu, la crainte m'a saisi tout de suite. Puis là, tu regardes autour, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va arriver si je m'en mêle? Alors, c'est juste pour nous faire comprendre que des fois, ça peut nous prendre là, quand on veut aider à mettre quelqu'un. Alors, Jésus introduit un troisième personnage dans notre histoire, là, un Samaritain. On lit ça au verset 33, mais un Samaritain qui voyageait, étant ému, et étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Alors, pourquoi est-ce qu'il est question d'un Samaritain? Probablement parce que les Juifs puis les Samaritains se détestaient au plus haut point. La pire insulte qu'un Juif pouvait faire à quelqu'un, c'était le traiter de Samaritain. Un jour, les chefs juifs y avaient perdu une discussion ou un différend avec Jésus, puis là, ils ont essayé de le discréditer en lui disant: est-ce qu'on n'a pas raison de dire que tu es un Samaritain puis que tu as un démon? Alors, c'était une grosse insulte, traiter quelqu'un de Samaritain. Puis en plus que c'est un Juif, que mon Seigneur Jésus. Alors, cette animosité-là, ça datait du temps d'Esdras, environ 500 ans avant Jésus-Christ. Lorsque les Israélites y sont revenus de leur exil à Babylone, les Juifs ont commencé à reconstruire le temple. Puis là, il y a des Samaritains qui leur ont proposé de leur aider, mais à cause du manque de fidélité des Samaritains aux ordres que Dieu avait déjà donnés, ben les Juifs ont refusé. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Samaritains, ils étaient issus de colons babyloniens qui venaient de Babylone, qui s'étaient installés en Samarie avec des étrangers immigrants. Ils avaient marié des femmes juives qui étaient restées, qui n'avaient pas été déportées parce que souvent, les femmes juives étaient trop pauvres, il n'y avait pas de métier, on les laissait directement là. Alors, ceux qui sont arrivés, ils les ont pris. Puis là, ça a fait un peuple métis qui s'est appelé les Samaritains. Mais les Samaritains, bien souvent, il y avait des pères non-juifs. Les mères étaient juives, mais les pères étaient non-juifs. Ils ont tout mêlé, les croyances religieuses, ce qui fait en sorte que les Samaritains puis les Juifs ne croyaient pas la même chose. Ils croyaient certaines affaires, mais les deux peuples se détestaient à cause de ça. Puis même quelques années plus tard, les Samaritains y ont essayé d'arrêter les travaux de construction du mur de Jérusalem. Bref, je vous dis tout ça pour vous dire que Juifs et Samaritains, t'invitais pas ça dans le même party. Ça se haïssait pour se tuer, là. Maintenant, celui qui était tombé entre les mains des brigands, ça, c'est un Juif. Comment qu'on fait pour savoir ça? Bien, il n'y a pas de doute dans la tête des auditeurs parce que l'histoire se déroule dans le pays d'Israël, sur la route qui part de Jérusalem. Et bien souvent, c'est uniquement des Juifs qui font ça, ce chemin-là. Alors imaginez, si déjà le sacrificateur et le Lévite, qui sont Juifs, ont passé outre, envoyé un Juif à terre, qu'est-ce qui va se passer quand le Samaritain, il va le voir? Il va achever de le tuer? Parce qu'il ne faut pas oublier que les deux groupes étaient particulièrement ennemis un l'autre. Mais dans l'histoire de Jésus, ce n'est pas ça qu'on voit. Au verset 33, on voit que le Samaritain, il voit l'homme qui est couché à terre. Comme le sacrificateur et le Lévite l'ont vu aussi. Mais lui, contrairement aux deux autres, au verset 34, il s'approche, il bande ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis là, il faut se souvenir que le blessé, il est complètement dépouillé. Il s'est fait dépouiller complètement. Il n'y a rien sur lui. Donc, le Samaritain doit fouiller dans ses propres affaires pour le soigner. En plus, il l'a mis sur sa propre monture. Et sa propre monture, ça devait probablement être un arbre. Ce qui veut dire que le Samaritain, il a marché, puis que le blessé était sur le dos de l'animal. Alors, on voit que tout ce que le Samaritain fait pour un parfait étranger, c'est quelque chose de remarquable. Puis, à la fin de l'histoire, on le voit même prendre son propre argent, c'est-à-dire deux deniers, l'équivalent de deux journées de travail. Puis, il fait ça quand? Le lendemain. Ça nous propose qu'il a probablement passé la nuit à veiller sur lui. Alors, bref, il a fait, le Samaritain, tout ce qui était en son pouvoir pour venir en aide à cet homme-là. Il ne s'est jamais arrêté en se demandant, comme le docteur de la loi s'était demandé, « C'est qui mon prochain? » La vraie question, ça aurait dû être « De qui suis-je le prochain? » Puis la réponse est claire, « De quiconque se trouve dans le besoin. » Encore une fois, il faut être honnête avec soi-même. Si on rencontrait la même situation, est-ce qu'on ferait la même chose que le Samaritain qui a agi envers un étranger dans une situation désespérée ou même un ennemi? C'était ça le but de l'exposition de la parabole du bon Samaritain. Tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Et oublier la question des ennemis. Dans la tête du Seigneur, il n'y en a pas d'ennemis. Dans la tête, dans l'enseignement des pharisiens, il y en avait un. Et tous ceux que tu avais choisi de considérer comme des ennemis, eux autres, tu n'es pas obligé que de les aimer. Ça facilite la chose pas mal. Alors que le Seigneur dit, tu aimeras ton ennemi. Pourtant, il y a quelqu'un pour qui on a fait tout ça. C'est-à-dire l'aimer comme soi-même. Alors, le quelqu'un pour qui on a fait tout ça, c'est nous-mêmes. Puis le commandement de la loi demande d'aimer notre prochain de cette façon-là. Comme on s'aime nous-mêmes. Écoutez, c'est fort possible que certains d'entre nous ont pu accomplir des choses admirables à un moment donné de leur vie. Mais est-ce qu'on aime vraiment les étrangers toujours de cette façon-là? Bien, on est obligé de dire non. Dans la parabole, Jésus décrit un amour rare et sans limite. Il répond aussi à la question de l'homme de loi qui disait « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit « Que dit la loi? » Ben, il faut aimer notre prochain comme soi-même. Le Seigneur dit « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Autrement dit, aime comme ce Samaritain-là. Alors Jésus lui a raconté cette histoire pour montrer que la loi fixe un niveau inaccessible. C'est vrai pour le docteur de la loi et c'est aussi vrai pour nous. Verset 36. « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? » Il y a juste une bonne réponse à ça. Et le docteur de la loi, il l'a donné. « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. » Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Alors, la conclusion aurait dû amener l'homme à une profonde repentance, à une sincère confession de son incapacité. Il aurait dû dire, « Pas capable d'aimer comme ça. » S'il avait reconnu ça sincèrement, Jésus aurait été prêt à lui offrir la vie éternelle. Et c'était ça le but de l'objectif de la parabole. Ce n'était pas de manifester. Jésus n'a pas raconté ça pour que les gens comprennent que, oh ben, il faut manifester de la bonté vis-à-vis les gens qui nous entourent. C'est vrai ce que je viens de dire là. Mais ce n'était pas le but de la parabole du bon samaritain. Le but de la parabole du bon samaritain, c'était de réaliser que tu n'es pas capable de faire ce que le bon samaritain a fait. Tu n'es pas capable de le faire. Tu n'as pas dans ton cœur l'amour assez puissant pour agir de cette façon-là. Alors, la manière, puis il y a une chose qu'il faut qu'on retienne surtout, la manière dont le Samaritain a pris soin du voyageur, c'est remarquable. Mais en réalité, c'est juste une pâle démonstration de l'amour que Dieu a eu pour chacun de nous. Le Samaritain, lui, il a sacrifié du temps puis de l'argent pour secourir un ennemi qui était blessé. Dieu, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné ce qu'il y avait de plus précieux à son âme. Il nous a donné son Fils unique qui est venu mourir à la place de pécheurs qui méritait rien d'autre que la condamnation éternelle. Regardez ce qu'on lit dans Romains, chapitre 5, verset 6. Romains 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, c'est qui ça, les nous? C'est nous. Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, si on veut comparer avec ce que le bon Samaritain a fait, c'est même pas comparable. Le Samaritain n'a pas donné sa vie pour l'homme qui était blessé. Christ, oui. Christ, lui, c'est pour ça qu'il est venu. Donner sa vie, mourir pour moi. Et on lit dans les Écritures, Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Jean 5, 24, « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. » Mais il est passé de la mort à la vie. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Alors, qu'est-ce qu'on apprend à propos de la vie éternelle? C'est quelque chose qui nous a été donné. Ce n'est pas quelque chose qu'on a pu gagner. Et toutes les religions de la terre ont cette mauvaise compréhension-là, on va gagner notre salut. Le salut ne se gagne pas. Il se donne et il se reçoit. Tous ceux et celles qui ont accepté l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix ont cette assurance-là que Dieu, par grâce, les a sauvés parce qu'ils ont accepté ce que Christ avait fait pour eux. Ces promesses-là n'ont jamais été données à notre docteur de la loi dans la parabole qu'on vient de lire. Et puis, n'ont jamais été données non plus à l'homme riche dans Matthieu 19. Parce qu'eux croyaient qu'ils pouvaient faire quelque chose de bon pour gagner. Alors, d'un autre côté, ceux qui avaient des oreilles pour entendre, Jésus a toujours déclaré que la vie éternelle ne s'obtenait pas comme une chose méritée, mais qu'elle est un héritage donné par grâce à tous ceux qui placent véritablement leur foi comme au Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Alors, je termine avec une phrase. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Prions. Oui, notre Dieu et Père, on est tellement heureux, encore une fois, d'avoir pu effleurer ce que cette parabole qui a été dite par le Seigneur Jésus-Christ concernant le bon Samaritain, pour ce que cette parabole-là nous enseigne. Oh Dieu, on est forcé d'admettre qu'au niveau de la loi, on est disqualifiés, tous, un et chacun. Mais dans ta grande bonté, Seigneur, tu nous as révélé qu'on était justement incapables. Nous l'avons cru. Nous avons accepté celui qui était capable d'accomplir la loi à la perfection. Et à cause de cela, oh Dieu, tu nous as donné par ta grâce un salut éternel. Alors, on veut vraiment te louer. On veut élever ton nom, Seigneur, et te remercier pour tout ce que tu fais et tout ce que tu continues de faire pour nous à chaque jour. Et c'est dans le nom précieux de ton bien-aimé Fils que nous te prions. Amen.